Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
On va prendre un texte, si vous voulez bien, on va ouvrir une page de notre Bible et on va lire un premier texte. Alors, c'est toujours très original d'ouvrir notre Bible sur des histoires qui nous dépassent. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Eh oui. Et quand il fait des miracles, quand il nous dit, et la Bible nous dit qu'il fait des miracles, il y a un but. C'est pas pour nous éblouir. Pas du tout. C'est pour que nous puissions avoir foi en lui, dans ce qui nous semble impossible. Alors, on va lire un premier texte, et ce sera un avant-propos du sujet que nous allons prendre ensemble, méditer ensemble. Alors, dans Matthieu, s'il vous plaît, chapitre 17, 1-1, et nous allons prendre deux versets. Et Jésus dira à la suite d'un miracle que Jésus vient d'en faire la démonstration, et il va reprocher les doutes de ses auditeurs. Le doute, c'est ce que c'est le doute. Est-ce que c'est possible? Eh bien, ça, c'est des choses dont Dieu veut nous guérir, parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Alors, j'ai dit Matthieu chapitre 17, verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pu chasser ce démon? C'est l'histoire, vous savez, d'un garçon qui est touché par des forces ténébreuses, et nous voyons que il souffre, ce garçon, et Jésus va le délivrer complètement. Et Jésus répondra à ceci, écoutez bien, c'est à cause de votre incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? C'est cette force qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes qui touche notre conscience, qui touche notre cœur, notre âme, notre réflexion, notre raisonnement, et qui fait, c'est pas la peine d'y croire. Voilà l'incrédulité. Et vous savez que nous vivons dans un monde religieux, mais incrédule. Excusez-moi, je dois le dire. Parce que la foi, ça n'a rien à voir avec la croyance. Croyance religieuse, qui est véritablement, parsemée de légendes, de contes, de fables, etc. Moi, j'ai fait partie d'une église où on nous a raconté, nous les enfants, mais même les adultes, beaucoup de choses qui sont invraisemblables. Mais la Bible nous dit la vérité sur la puissance de Dieu, sur ce qu'il est capable de faire. Et il y a toujours un but. C'est pas pour nous faire rêver, c'est pas pour nous faire idéaliser je ne sais quelle situation, mais c'est parce que justement, c'est ces paroles de Jésus, les faits de Jésus, les faits de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il y a là quelque chose, un objectif à atteindre, c'est nous amener à une rencontre avec Dieu et qui va véritablement y déclencher un phénomène de foi. Et la foi, ça n'a rien à voir avec la croyance. Alors, je continue. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. » Écoutez bien. Si vous aviez de la foi comme un, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, on s'expliquera, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, car rien n'est impossible. Dieu ne s'est jamais intéressé à la modification de la géographie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous prenez une montagne, vous la mettez à côté, ça fait un trou. Et puis il y en a qui sont en dessous, parce que la montagne s'est déplacée sur eux, comme malheureusement nous le voyons dans les effondrements tragiques que nous connaissons. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est l'image qu'il faut prendre. C'est à retenir qu'il y a là quelque chose qui nous dépasse, nous les hommes, et dont Dieu est capable. Et nous sommes pleins, Seigneur, nous sommes pleins, nous les hommes, de montagnes qui nous environnent. Alors vous donnez le sens que vous voulez au mot montagne, mais vous savez, les gens qui ont été en effet traumatisés par les séismes, dernièrement, on peut le prendre parce que c'est récent, eh bien, ces gens-là sont devant des montagnes aujourd'hui. Hein. Quand vous n'avez plus une maison, quand vous n'avez plus vos papiers, quand vous n'avez plus ceci et cela, ou que vous êtes dans les inondations, qu'une montagne, comme on le voit malheureusement, eh bien, décroche, hein, des rochers décrochent et que vous avez... Et à travers le monde entier, parce que bon, nous, on est quand même un pays, somme toute, où on a des moyens de secours. Mais il y a des pays, il n'y a rien du tout. Hein? Et on accumule, là, les disparitions, des gens qu'on ne retrouvera jamais, etc., etc. Alors, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, parce que rien n'est impossible. Ça vous intéresse que je continue? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a derrière? Ben, écoutez, on va aller plus loin. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va raisonner de cette manière, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez que Dieu est pour vous? Oui. Eh oui. Eh oui, les chrétiens sont finalement des fils et des filles de Dieu, et c'est lui qui nous a choisis, et pas nous qui avons choisi Dieu. On choisit une religion ou pas, parce que bon, c'est pour ça qu'on prend les enfants à leur naissance, comme ça on est sûr qu'ils soient dans la maison, vous comprenez? Mais bon, il y a toutes sortes de choses qui appartiennent à la dimension des rêves, des rêveries humaines. Alors, quel que soit, je voudrais ajouter, c'est toujours mon introduction, quelle que soit la puissance offensive ou défensive de l'attaquant qui est notre ennemi, d'une manière ou d'une autre, qu'on l'appelle montagne, de ceci, de cela, Dieu ne fait jamais rien d'inutile. Eh oui. Dans nos milieux évangéliques protestants, on a, dans notre population d'église, on a des gens qui peuvent raconter des histoires. Et comme ça, ils ont été appelés. Comme ça, ils ont eu la foi. Comme ça, eh bien, leurs expériences leur ont donné de croire en Dieu. Et ils ne se sont jamais départis finalement que Dieu est un Dieu de miracles, un Dieu de puissance, un Dieu qui a fait pour eux, soit à travers une guérison, soit à travers ce qui était une montagne, hein, quand on est prêt de mourir et que finalement on retrouve la vie, toutes sortes de choses semblables. Alors c'est vrai que Dieu ne fait jamais rien d'inutile, voire même d'insensé, parce que c'est insensé l'histoire de la montagne. Ah oui, hein, imaginez-vous qu'une partie des Alpes arrive à Redon. Vous en avoir haut sur la tête, ça je peux vous le dire. Eh oui, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Et nous voyons que dans les cas les plus prodigieux qui soient, parce que c'est ce que Jésus veut nous signifier, il poursuit, je l'ai dit et je le rappelle, un but précis selon ses plans. Dieu a un plan bien établi. Celui qui a fait les étoiles, celui qui a fait le firmament, les astres et d'une manière ou d'une autre, mais c'est rien pour lui. Imaginez-vous. On dit Dieu créateur. Nous croyons, finalement, eh bien, que Dieu est créateur et qu'il a créé toute chose, donc il en a la maîtrise, d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est du surnaturel dont nous allons parler ce matin. C'est du surnaturel, et en étude théologique, on l'appelle historico-critique, c'est-à-dire que les hommes ont essayé de percer les savants, les théologiens, et puis peut-être tout à chacun. Mais comment cela peut-il se faire? Comment la mer Rouge s'est-elle ouverte? Comment, eh bien là, en effet, telle et telle situation se sont produites et s'est rapportée dans la Bible? Et certains ont dit, tout ça c'est de la foutaise. Excusez-moi l'expression, hein, c'est pas très beau. Mais moi je crois pas en Dieu parce que c'est pas possible. Ben oui, mais on va voir que quelque part, à notre niveau, à notre petit niveau, Dieu a fait des miracles, et il fait des miracles. Retenez bien, historico-critique, ceux qui étudient la Bible, théologiens, eh bien c'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors ils essaient d'expliquer pourquoi. Et on va prendre ce matin, parce que c'est pas fini, ça commence, On va prendre dans Josué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Josué, la foi qui transporte les montagnes. C'était le compagnon le plus proche de Moïse. Et un jour, il faisait la conquête du pays de Canaan, ils n'étaient pas encore rentrés. Eh bien, il a fait l'expérience de la foi qui transporte les montagnes, ou des murailles de Jéricho qui s'écroulent, sans rien faire, sinon en chantant et en dansant. Alors on va voir ça. Et je voudrais prendre naturellement quelques textes pour étayer notre propos. Alors Josué, chapitre 6, et nous allons prendre quelques versets, parce que je ne veux pas lire tout, hein. Je ne veux pas tout lire, parce qu'il y en a tout un chapitre, mais bon, vous connaissez l'histoire de Jéricho? Ouais. Est-ce que vous avez été à Jéricho d'abord? Non? Ouais. Ben, nous, on y est allé avec Myriam il y a à peu près une dizaine d'années, et c'était assez particulier. La première chose qu'on a vue, c'était le sycomore de Zaché. Alors, on peut dire qu'il était vieux quand même. Mais bon, c'est vrai qu'une ville comme une autre, il paraît que c'est une des plus vieilles villes de l'humanité, avant celles qui sont nommées dans la Bible, etc. Donc Jéricho. Alors le peuple d'Israël passe le Jourdain et il va passer le Jourdain d'abord, il va arriver à Jéricho et il va se passer quelque chose. Dieu va donner finalement l'ordre d'investir la ville de Jéricho parce que c'est une forteresse. Retenez bien, on va parler des forteresses. Oui. C'est là, eh bien, où c'est un verrou en quelque sorte pour rentrer dans le pays de Canaan où coulent le lait et le miel. Vous savez, ça c'était les promesses de Dieu. Hein. Mais alors, ils vont se trouver, les soldats hébreux, c'était pas des soldats, c'était finalement, eh bien là, tout simplement, eh bien, des gens qui n'avaient pas l'habitude du combat et tout ça. Et ils vont se trouver devant cette forteresse, ce bastion. Quelque chose d'impressionnant. Et la première impression qu'ils ont dû avoir, on n'y arrivera pas. Hein. Ça, c'est sûr. C'est une montagne. Ça, c'est clair. Alors, au chapitre 6, il nous est dit comme ça, c'est Dieu qui va dire, « À un moment donné, vous allez arriver face à Jéricho et vous sonnerez de la corne retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. » Après, c'est tu pendant 6 jours. Hein. Attention. Ouais. Alors, la muraille de la ville s'effondrera, s'écroulera. Un peu plus loin, il est dit, on laissera la vie arabe, la prostituée, vous connaissez, c'est une autre histoire, mais une histoire extraordinaire, a une grande valeur morale, hein, parce que c'est une prostituée, hein, et elle va être sauvée. C'est une païenne. Ça, c'est encore aussi un miracle, hein, d'une autre manière. Hein. Et tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, ils vont être sauvés. Alors, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la montagne s'écroula. C'est ainsi que finalement, eh bien, les murailles de Jéricho sont tombées. Vous savez, nous dans notre région, on a depuis la guerre, là, l'opération Todd, c'était nazi, hein, naturellement. Ils ont fait des sacrés murs, hein, pour les, comment on appelle, les bunkers. Hein. Je peux vous dire que quand vous mettez un tableau au mur d'un bunker, il ne bouge plus, hein. Faut des clous comme ça. Hein. Enfin, c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Moi, j'ai vécu dans une ville, le château d'Angers. Ah oui. Quand vous le voyez comme ça, quand vous arrivez de Nantes ou de Paris, vous voyez un monument extraordinaire. Mais les murs font 6, 8 mètres. Ah ben, on se protégeait à l'époque. Hein. Ben, c'est un peu ça, Jéricho, si vous voulez. C'est terrible, hein. C'est redoutable en tous les cas. Donc, l'histoire de Jéricho. Des murs, une muraille, une montagne. Et vous l'avez lu avec moi, j'aimerais justement vous donner quelques informations. La foi, nous dit Jésus, puisqu'il y a là, d'un côté la crédulité, je crois pas, et la foi en Dieu, la foi même, si possible, la foi, si petite soit-elle, si insignifiante, parce qu'elle est représentée par un grain de sénévé, un grain de moutarde. Vous avez remarqué dans les peaux de moutarde, c'est tout petit, c'est rouge. Hein? Alors, ne vous complexez pas, c'est-à-dire, j'ai pas la foi, ou quelqu'un vous dit, t'as pas la foi. Ben, moi, je ne dirais pas les choses pareilles, parce que d'abord, on blesse la personne, parce qu'elle croit avoir la foi. Hein? C'est pas la peine, faut augmenter la foi, faut pas la baisser. Hein? Alors, il est parlé d'un grain de sénévé. Si vous aviez la foi gros comme un grain de rien du tout, on peut le dire de cette manière, parce que Dieu veut nous enseigner que rien n'est impossible. Et l'impossible, c'est parce que nous sommes bloqués devant une muraille. Et cette muraille, c'est l'incrédulité. Ça passe pas, hein. C'est l'incrédulité des hommes pour arrêter le miracle divin. Vous ne croyez pas, vous verrez pas le miracle. Vous ne croyez pas, à moins que Dieu ait un autre plan pour nous, hein. Guérison quand on est malade, ou alors nous allons partir le rejoindre, hein. Ça c'est clair. Mais ça c'est son problème, c'est le problème de Dieu, et c'est pourquoi finalement, hein. Ça pose d'autres questions naturellement. L'incrédulité des hommes peut arrêter le miracle divin, et Jésus s'est quelquefois mis en colère, hein, en colère façon de parler, dans le temple, le cœur même finalement du judaïsme. C'est là, dans cet endroit-là, eh bien, qu'il y avait le moins de foi. Hein, c'est là où Jésus a été contesté véritablement de mille et une manières. Et c'est le type d'opposition de tout ce qui affronte le plan voulu, eh bien là, de Dieu. Le plan qui affirme que Dieu est le créateur de toutes choses. Et nous voyons que c'est quelque chose dont il faut prendre en considération. Parce que la foi, eh bien, c'est l'arme qui va nous donner de pouvoir, eh bien, percer la muraille. Percer la muraille, et ça ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe dans notre cœur, dans notre conscience, au fond de nous-mêmes. Et l'arme invincible, inédite, c'est la foi persévérante qui vainc les résistances les plus récalcitrantes. Alors, on va être des soldats d'Israël, c'était ce matin. On va se trouver devant un mur, devant une montagne, devant une muraille, et on va essayer de passer. On va croire que ce que Jésus nous enseigne, c'est la vérité. C'est véritablement, eh bien, ce que nous avons besoin d'entendre, peut-être. Hein, parce que moi, quand j'ai eu à cœur de faire ce message, oh, Jéricho, je l'ai prêché 50 fois, hein, ça c'est sûr, dans mon ministère. Mais j'ai voulu donner quelques aspects particuliers pour vous encourager à croire en Dieu, à croire de tout votre cœur en Dieu. Sans restriction. Alors nous allons examiner la position stratégique de la forteresse de Jéricho. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un verrou. Vous savez que les villes dans l'Antiquité et les villes au Moyen-Âge étaient toutes faites avec des portes. Et alors, si vous regardez à Paris, vous en avez au moins une vingtaine à Paris, hein. Porte de Clichy, porte de... toutes sortes de choses. Mais c'est parce qu'il y avait des forteresses avant, même autour de Paris. Hein. Ça, si vous regardez un petit peu les choses dans ce qui nous est rapporté dans le passé. Forteresse de Jéricho, c'est un verrou pour la conquête du pays de Canaan par les Hébreux et le succès, finalement, de cette foi, de cette croyance, enfin, je dirais foi, hein, eh bien, ouvre entièrement le pays. Donc, les Hébreux vont rentrer et ils vont prendre tout le territoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils vont rentrer finalement et ils vont véritablement eh bien, prendre ce pays entièrement. Ou alors l'échec, l'incrédulité, va repousser vers eh bien, le désert. Ils vont être obligés de retourner dans le désert, ils avaient déjà passé 38 ans. Hein. Et ça ne leur suffisait pas peut-être. Hein. C'est ce qui s'est passé déjà une première fois. Hein. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont dit « nous on n'y va pas, c'est trop dangereux ». Bah, le désert, c'est sûr qu'il y a des serpents, il y a du sable, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas rien à manger et tout ça. Et pourtant, ça c'est un miracle, c'est une muraille. Ils n'ont pas voulu y aller, bah, ils sont restés comme ça, jusqu'au moment où Dieu eh bien, est venu les rechercher tout à nouveau dans cette histoire de transpercer les murs. Vous savez, le passe-muraille, vous avez peut-être vu le film, hein ? Il n'a aucune égratignure quand il est passé de l'autre côté, hein, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, ça c'est de la... C'est du cinéma, naturellement. Alors, cela, naturellement, nous repousse en arrière. Et quand on refuse d'ouvrir son cœur à la foi à Dieu qui est tout-puissant, alors à ce moment-là, c'est pas nous qui allons faire les choses, mais c'est lui qui va nous donner cette foi. Si vous lui demandez la foi, eh bien, il vous la donnera simplement, la sagesse, la foi, la confiance. Il vous la donnera simplement et sans reproche. C'est pour ça que nous pouvons prier tous les jours pour dire « Donne-moi la foi, Seigneur. Je sais que vous le faites. Hein? Donne-moi plus de foi. Augmente ma foi. » Comme ce serviteur hein, qui était venu pour son fils qui était épileptique. Et Jésus est venu pour le guérir. Et à ce moment-là, il s'est aperçu, ce serviteur, c'était un militaire, je crois. Il est venu dire à Jésus, « Mais s'il te plaît, pardonne-moi mon incrédulité, mais donne-moi la foi pour que je puisse croire à la guérison de mon fils. » Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Il va voir son fils guéri, quoi qu'il en soit. Alors, il nous a dit que dans cette ville, elle était barricadée et elle était fermée. Donc, c'était une place forte, inexpugnable, un bastion à la fois vers le nord, vers le sud, et puis là, vers les plaines fertiles de Canaan. Hein, l'eau qui se trouvait dans le Jourdain, ça permettait de vivre, parce que s'il n'y a pas d'eau, il y a pas de... un peuple ne peut pas se fixer hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis au sud, eh bien, c'était ouvert de tous les côtés. Et là, il y avait déjà la ville de Jérusalem qui va devenir la capitale d'Israël, à un moment ou à un autre. Alors, il nous est dit fermé et barricadé. Et nous voyons qu'il est même précisé une petite chose, un passage fermé de tous côtés. C'est-à-dire qu'on pouvait y rentrer, si on avait la victoire, par la foi, là, en quelque sorte, traverser la montagne. Et à ce moment-là, eh bien, les gens qui voulaient rentrer, les ennemis, les adversaires ne pouvaient pas finalement pénétrer. C'est une préfiguration, parce que je vais y donner aussi une note évangélique à notre message, préfiguration et analogie devant le peuple d'Israël et les empêchements majeurs de réaliser les promesses de Dieu. Vous savez que Israël, même encore aujourd'hui, est combattu jusqu'à la destruction d'Israël. Je ne suis pas en train de faire de la propagande pour Israël, pas du tout. Hein. Le peuple d'Israël est un peu comme les autres. Hein. Bon, mais bien sûr, ils ont raté d'ouvrir la bonne porte. Hein. Parce que quand Jésus est venu, le Messie est venu avec le message de l'Évangile, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas accueilli, ils l'ont mis sur une croix. Et ça, on est encore dans le temps de l'attente. Les Juifs sont encore dans le temps d'attendre un Messie, puisqu'ils ont refusé celui que Dieu leur donnait. Et là, il y a eu pourtant quelque chose à faire. Hein. Qu'est-ce qu'aurait été la vie du monde? Parce que Israël, un pays grand comme la Bretagne, qui tient dragée haute au monde entier, faut le faire. Faut le faire, hein, parce que c'est pas... C'est grand comme, je vous dis, c'est un tout petit pays. Hein. Mais je pense que derrière tout ça, eh bien, c'est une analogie du combat que les Hébreux ont mené, hein, c'est vrai, à travers des guerres continuelles, à travers des exils dans le monde entier, où ils ont été persécutés. Ils ont même été, c'est pas si vieux que ça, jusque dans les camps d'internement et de concentration pour qu'ils disparaissent de la terre. Ah oui, les ennemis de Jésus, que l'on entend encore parler aujourd'hui, en demandant à Dieu que Israël, que son nom disparaisse de la surface de la terre. Et aujourd'hui, nous avons le même discours. C'est terrible, hein, cette haine. Et pourtant, devant toutes les religions de toutes les nations, il y a la foi en Dieu évangélique, la foi biblique, qui est la seule qui, finalement, nous fait traverser les montagnes. Et c'est un miracle, mais Israël subsiste encore de nos jours, quoi qu'il en soit. Alors le but pour Israël à l'époque, le pays promis à Moïse, à Josué, c'était le pays où coulait le lait et le miel, après la servitude terrible de l'Égypte, parce qu'ils ont passé 430 ans en Égypte à être des esclaves pour construire les pyramides et tracer les canaux qui ont fait la richesse finalement de l'Égypte. Ça c'est certain. Alors c'était en effet une conquête matérielle territoriale qui elle-même préfigurait ce que sera la mission future, en d'autres termes, ce que sera la conquête spirituelle des âmes, au temps de Jésus, qui lui va venir pour proclamer l'évangile du salut. Eh oui, si vous mettez en parallèle, si vous mettez en préfiguration, Josué est en quelque sorte celui qui va précéder le Christ. D'ailleurs, le mot Josué et le mot Jésus ont la même racine. C'est formidable la Bible, quand on voit les choses, quand c'est toujours aussi finalement eh bien, de l'explication théologique, mais je ne vais pas faire de théologie, ce n'est pas le but, mais de vous dire que quelque part, tout se tient, tout est là, eh bien conforme avec un plan, une volonté de Dieu. C'est quelque chose, on peut le dire. Donc, Josué est, en quelque sorte, eh bien là, l'anticipation des temps du christianisme évangélique. Pour conquérir le monde, pour conquérir la grande forteresse, le bastion, par exemple, hein, du monde entier. Et c'est vrai que quand Jésus est venu, c'était plus seulement le peuple d'Israël qui était élu, mais c'était le monde entier, à travers finalement les chrétiens qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, par Jésus-Christ, et qui croient à son message de l'Évangile. Formidable, hein ? Mais fallait pousser les murailles, hein ? Fallait que la montagne soit finalement, eh bien, transportée ailleurs. Laissons la montagne, hein, avec toutes ses superstitions, avec ses fausses religions, avec tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors laissons-la, parce que le monde continue à faire ce qu'il veut. Le monde continue à s'enfoncer dans les pratiques de Sodome et Gomorre, mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'il y a un monde à part. Israël en attendant le Messie, bon, c'est pas tout de suite encore, mais en tous les cas, l'Église de Jésus-Christ, qui elle rayonne, je parle bien, pas d'une religion, mais véritablement d'une conversion de cœur à la personne de Jésus. On est certainement plus que l'on pense, et par-delà, finalement, eh bien là, tout le... Les noms qu'on a pu donner à ces chrétiens qui croient en Jésus, par-delà tout ça, moi je crois que ce n'est pas seulement l'église évangélique de Redon, hein, ou l'église des assemblées de Dieu dont nous faisons partie, mais ça ce sont des organisations humaines, quoi qu'il en soit. Mais voilà le travail. Il fallait que les murailles de Jéricho tombent pour que viennent, des siècles et des siècles plus tard, un qui s'appellera Jésus, le Messie pour tout le monde, le Messie pour les Juifs et le Messie pour le monde entier, et que là, véritablement, l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et la montagne, c'est une montagne tout ça, hein. Ça, c'est certain. La redoutable opposition et la puissance invisible des ténèbres. Ouais. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, contre des dominations, contre des autorités et des esprits méchants des lieux célestes. Comment peut-on, finalement, interpréter le monde de l'occultisme, le monde de la magie, le monde des sorciers, dans toutes sortes de déclinaisons, que ce soit le chamanisme, que ce soit à travers toutes sortes de pratiques, qui sont des pratiques humaines, des pratiques occultes, qui vont chercher leur source au ciel, mais pas le ciel de Dieu. Il faut que la muraille tombe. Et elle est tombée. Déjà du temps de Josué. Mais ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer en quelque sorte. Vous voyez la puissance invisible des ténèbres qui est l'emblème spirituel, comme la conquête, eh bien là, du pays de Canaan était l'emblème tout simplement, en effet, de tout ce qui est matière et physique, en quelque sorte. L'Église, aujourd'hui, a lutté. Elle est appelée à lutter contre les forteresses diverses d'un monde hostile à la vérité et au salut de Dieu, offert au monde entier pour sa destinée éternelle. Le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Oui, que nous croyons en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le but. Parce que notre place, notre nation, notre patrie, elle n'est pas ici, mes frères et sœurs. Vous avez des maisons, profitez-en. Vous avez du travail, vous avez de l'argent, vous avez ceci, ceci. Profitez-en. On n'est pas des rabat-joie, hein. Profitez de tout ça. Mais à un moment donné, vous le savez pertinemment, il faudra partir. Et qu'est-ce que vous emporterez avec vous? Rien du tout. Je le dis et je le répète, moi j'ai jamais vu, j'en ai fait des sépultures, hein, je peux vous le dire, hein, mais je n'ai jamais vu un convoi funèbre accompagné d'un camion de déménagement. Il ne reste plus rien. Mais il ne reste plus rien, tout simplement. Alors, nous sommes en face de forteresses diverses de ce monde-là. Et nous voyons que l'explication, eh bien, c'est cette image que nous prenons, cet emblème, ville de Jéricho, assiégée, en état de défense absolue. Jéricho ne veut pas se laisser prendre. Jéricho va lutter jusqu'à la mort. Ils vont tout perdre. La ville sera en feu, il ne restera plus rien du tout. Il n'y aura plus qu'une femme qui va être sauvée, et pas n'importe laquelle, c'est une païenne, et elle s'appelle Rahab. Donc Dieu fait grâce, même à ceux qui ont péché. Parce qu'elle avait un état qui n'était pas... elle avait un petit peu la mentalité de Sodome et Gomorre. Mais à un moment donné, parce qu'elle a sauvé les espions d'Israël, elle les a mis à l'écart. Alors à ce moment-là, eh bien, Dieu va s'en souvenir de cette femme. Et il va véritablement lui donner, elle aussi, le salut. Et nous savons qu'elle fait partie de la descendance de Jésus, hein, Rahab. Regardez la généalogie de, selon Matthieu, ou de Luc. Peut-être, je n'ai pas regardé, je n'ai pas contrôlé, mais je sais qu'elle faisait partie, vous rendez compte, pour nous dire que le monde entier, aujourd'hui, même un monde qui était dans le pétrin, nous pouvons dire, dans la boue du mal, dans la boue du péché, eh bien, peut être encore sauvé si véritablement il se tourne vers Dieu. Toute offensive par les armes au combat de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui avait bien la notion finalement de toutes ces choses, eh bien dira, écrira, je l'ai dit mais je le répète, il est dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre Jéricho et puis tout ce qui finalement fait la vie des hommes sur la terre, hein, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs. Eh bien il nous est dit que c'est pas contre ceci, c'est pas contre des dominations, des autorités, des puissances, des esprits méchants. Mais il y a un texte que moi j'aime beaucoup, parce que finalement il nous montre bien que ce que j'ai dit tout à l'heure, les réalités du monde invisible, du monde spirituel et du monde occulte, eh bien il existe. Et j'ai tout simplement, eh bien là, dans notre passage, dans 2 Corinthiens chapitre 10 et versets 3 à 5, il est dit ces paroles. Si nous marchons selon la chair, si humainement, toute notre vie est réglée avec la chair, avec ce que cela peut comprendre. Nous ne combattons pas selon la chair, oui. Car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, elles viennent de là-haut. Par les vertus de Dieu, pour renverser les forteresses. Oui. Nous renversons les raisonnements, c'est pas nous renverserons, mais c'est au présent. Nous renversons les forteresses, des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à la foi en Christ. Et ça, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui produit ça. C'est pas nous, naturellement. L'ennemi retranché dans des murs humainement infranchissables. Je vois les habitants de Jéricho qui sont derrière les murs, ils sont dans la forteresse, puis les autres qui sont en dessous, et puis qui essaient de voir comment on peut faire. Donc, c'est infranchissable. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Et à l'inverse, la contre-attaque dont le but est l'effondrement de l'obstacle. Parce qu'à un moment donné, nous l'avons lu, les murailles vont tomber à terre. Et de quelle manière ils vont tomber à terre? Parce que rien ne résiste à Dieu. Les hommes résistent aux hommes, à tous les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire éclater le monde. Le nucléaire, les drones, les Scuds, enfin tout ce que vous voulez, on entend parler tous les jours. Si ça n'existait pas, on n'entendrait pas parler. Mais avec ça, on est nourri, qu'on est dans des menaces de guerre permanentes. Et attendez, il y a le passé, et on ne connaît pas l'avenir. Et les armes sont de plus en plus destructives. On fait des trous maintenant, des gros trous, avec des grosses bombes. Oui. Alors... ça, Josué ne connaissait pas. Et nous voyons que ces murailles de terre, eh bien, interdisent finalement à la fois la sortie des gens qui sont à Jéricho, et puis l'entrée de ceux qui les agressent, c'est-à-dire Israël, tout simplement. La stratégie subtile de l'ennemi, parce que l'ennemi, quand il est attaqué, il va réagir. Il va finalement endurcir les cœurs à travers la propagande, à travers la désinformation, toutes sortes de choses. Mais c'est ce que nous voyons encore. Il endurcit les cœurs, les consciences, les pensées. Et c'est ce qu'on peut appeler les intelligences, les forteresses de l'intelligence, les intelligences donc fortifiées. Et regardez tout le baratin qu'on nous sort tous les jours. On a des vérités et le lendemain, même pas quelques heures après, on nous donne des contre-vérités. Et les gens disent, ben oui, on ne sait plus ce que... À qui peut-on donner confiance? Il n'y a que Dieu en lequel nous pouvons avoir confiance. Dieu, vous ne le voyez pas. Moi, je ne le vois pas. Mais je crois en lui qu'il existe. Ouais. Et on nous bourre le crâne, finalement, avec toutes sortes de choses. Je ne veux pas citer les noms, parce que bon... Ce sont quand même des braves gens qui mènent le monde aujourd'hui. Hein. Ils aiment bien leurs ennemis. C'est pour ça qu'ils visitent tous les jours. Ouais. Par le ciel, avec des avions, avec des canons, enfin toutes sortes de choses. Parce que le monde de Jéricho, le monde de Sodome et Gomorre, veut garder à lui ce qui est à lui. Il aime ce qui est à lui, tout simplement. Et il veut faire du monde, eh bien là, une grande captivité, hein, en quelque sorte. Dans le mensonge, une captivité dans le mensonge, et on ne peut ni entrer ni sortir de l'entendement, cette sorte de forteresse voilant la vraie liberté et falsifiant la vérité. Mes amis, si vous voulez un critère de vérité, lisez la Bible. Il y a des gens qui disent la Bible c'est du n'importe quoi. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Regardez, traversée de la mer Rouge, les forteresses de Jéricho. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne croyez pas que les religions, avec leurs traditions, avec toutes sortes de choses, nous ont pas raconté des fadaises? Eh oui, absolument. Des salamalek. Des choses qui, quelque part, en effet, sont complètement aberrantes. Et les gens le croient. Hein. Ah! Ça, c'est étonnant. Les gens le croient. Je prendrai un autre texte. Ça va, vous suivez, je ne veux pas être compliqué, hein, mais je le suis peut-être, parce que c'est l'histoire. Chapitre 3 et verset 8. Alors, Dieu dit à une église qui s'appelle tout simplement...
Chapitre quoi?
Apocalypse, ah bah oui, bien sûr. 3, 8, d'accord? « Je connais tes œuvres, dit Dieu, à cette fameuse église. » C'est une église, normalement, qui est passée par le christianisme biblique. « Voici, parce que tu as peu de puissance. » Et Dieu nous dit encore aujourd'hui, tu as peu de puissance. Et c'est vrai que nous avons peu de puissance. Comment voulez-vous que nous puissions nous battre avec, finalement, sans épée, mais seulement avec la foi? C'est de l'illusion, ça, pour les gens. Alors, je sais que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, ça c'est important, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et voici, j'ai mis aussi une porte fermée que personne ne pourra ouvrir. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui tient la clé. C'est lui qui est le verrou de tout ça. Alors, c'est Dieu lui-même qui va prendre les opérations en main. Les Juifs, les Hébreux, vont monter autour de Jéricho, ils n'auront ni pioche, ils n'auront ni massue pour casser les pierres, ils n'auront pas de pelle, mais ils vont véritablement à ce moment-là, eh bien, réagir parce que Dieu leur a demandé avec des chants, avec des cantiques, avec des louanges, et ils vont recevoir l'ordre de faire 7 fois le tour de la cité prétendue imprenable. Alors là, certainement pour les Juifs, ils se sont dit, mais Dieu perd la tête. Hein. C'est pas comme ça qu'on va finalement aller à la guerre. C'est pas comme ça qu'on va remporter la victoire. 7 fois le tour. Mais attendez, ça va pas se passer du premier coup. Hein. Et nous voyons que il faut la persévérance de la foi, mes amis. Quand vous avez des prédications d'une manière ou d'une autre, on vous parle de la persévérance de la foi. La foi doit être persévérante. Que ça dure une fois, que ça dure 2 fois, que ça dure une semaine de votre attente, que ça dure une année, que ça dure même peut-être 1 siècle, dans les prophéties, la perspective des prophéties finalement qui entourent le monde, eh bien, ça peut durer longtemps. Moi, si je vous dis que Jésus revient bientôt, vous y croyez? Vous savez quand? Eh ben voilà. Vous avez tout compris, hein? Mais il faut l'attendre, parce qu'il revient, il va remettre les choses en place, il va remettre les choses en ordre. Et pourtant, vous croyez que Jésus va revenir. Et il va véritablement, lui, pousser les murailles, il va pousser les forteresses, il va pousser le bastion, et ça va tout s'écrouler. Oui, c'est bien dit hein, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, nous voyons que les Hébreux vont être d'accord ensemble à ce coup-ci, hein, parce que Dieu leur a dit, maintenant c'est moi, hein, vous allez marcher à mon rythme. Proclamation unanime dans les chants, dans la louange, dans la victoire de Dieu. Et nous voyons que quand Dieu promet une chose, eh bien il va l'accomplir. Si Dieu vous a fait une promesse particulière à votre niveau, d'une manière ou d'une autre, que ça touche votre santé, que ça touche votre travail, que ça touche votre situation économique, d'une manière ou d'une autre. Si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, c'est pas la peine de le raconter aux autres. Hein, parce que là, vous allez le détruire. Oui, vous allez le détruire. C'est... Non. Attendez que Dieu l'ait fait, et après vous pourrez dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il l'a fait, parce qu'il a tenu, et il l'accomplit toujours. Écoute Israël, je te livre Jéricho entre tes mains. Tu vas faire un tour une fois. Bon, c'est pas trop long. Un tour une fois. Tu vas faire un tour deux fois. Tu vas faire un tour trois fois. Tu vas faire un tour quatre fois. Tu vas faire un tour cinq fois. Oh Seigneur, on n'en peut plus. Tu vas faire encore un tour six fois. Et après, un, deux, et tu vas arriver à sept fois. Chiffre de Dieu. Oui. Alors, c'est pas peine d'avoir une calculette, hein. De toute façon, quand vous aurez marché toute une journée en plein soleil autour de la muraille, là, vous allez voir ce que ça peut être, hein. Hein, vous allez bronzer, ça c'est sûr, surtout là-bas. Il fait chaud. Dans le désert de Juda, c'est tout jaune. Ah oui, alors on dit que c'est tout jaune ici, mais alors là-bas, c'est un désert, on voit quelques bédouins qui se baladent avec des troupeaux. C'est sinistre, hein. Enfin, pour moi, je... Bon, voilà. Ben, Jésus s'y est plus, puisqu'il était 40 jours. Hein. Bon, faut que j'apprenne peut-être à... faire un petit peu comme Jésus, mais si vous ne voyez pas pendant 40 jours, vous saurez où je suis. Dans le désert de Juda. Apportez-moi un peu d'eau, parce que bon, faut se rafraîchir. De... Voilà la part de Dieu, et voilà la part d'Israël. Une stratégie si déconcertante, hein, je mets les mots, aucun combat, aucun pas d'armes, mais... une disposition intérieure, c'est de croire et obéir. C'est là-dedans que ça se passe, mes frères et sœurs. Oui, croire et obéir. Dieu arme ses soldats de l'intrépidité de la foi. On parle de la foi persévérance, on parle de la foi qui se réjouit, on parle de la foi. Mais là, je parle de l'intrépidité de la... Ça touche à la folie, quelque part. Eh, peut-être certains ont dit... Dis donc, Seigneur, t'as pas perdu quelque chose, là, y a pas... hein, tu nous fais tourner en rond et puis tu nous dis cette fois, ça va dégringoler. Il faut aller jusqu'au bout pour voir si c'est ce qu'il veut. Voilà. Seigneur, eh bien, il assure, nous l'avons dit, il fortifie. Et parce qu'il y a une parole qui vient sceller l'avant-miracle, qu'est-ce que Dieu dit? Pratiquement dans les fois où il tourne, et puis la dernière fois, vois Israël. Je te livre Jéricho entre tes mains. T'as les mains vides, tu vas pas être embarrassé. Mais je te livre Jéricho entre tes mains. Il y a deux principes en cause et je vais bientôt terminer. Être prêt à obéir sans comprendre. Alors ça, c'est notre problème. Ça va? Beaucoup de gens disent, même des chrétiens disent, si je vois, si je sens ou je ressens, si ceci, si cela, je croirai. Ben, c'est l'histoire de Thomas. Oui, vous connaissez. On ne va pas épiloguer là-dessus. Hein. Mais une chose, c'est que Dieu nous dit, avance, marche et cherche pas à comprendre. Tu vas bientôt comprendre les choses. Si tu ne le comprends pas maintenant, nous dit ce fameux passage où Jésus s'adresse à Pierre qui lui est en train de se débattre parce qu'il ne voulait pas que Jésus lui lève les pieds. Et Jésus lui dira tout simplement... Eh bien, voilà, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire ce matin, si vous avez des problèmes de muraille, hein, je ne parle pas du mal, le mur de votre jardin hein, avec un voisin, mais si vous avez véritablement un problème, attendez le moment qui sera le moment de Dieu, sans comprendre. Seigneur, explique-moi et je croirai. Non, Dieu nous dit, je ne t'explique pas, mais tu vas croire. Je vais t'aider à croire, parce que tu n'es pas capable de croire. Je vais t'aider, je vais te donner la force. Finalement, eh bien, de croire. Vois, je te livre Jéricho entre tes mains. Ses principes, être prêt à obéir sans comprendre. Et la persévérance qu'il nous faut. 1, 2, 3, 4, 5, j'en peux plus, Seigneur. 6, je suis épuisé. Et puis, je ne veux pas attendre la suite, parce que moi, je pense que tu es en train de nous mener en bateau. Hein? Ouais, surtout qu'il n'y avait pas d'eau, là. Mais oui, c'est la persévérance, 6 fois tout de suite, à tourner en rond, sans que rien ne se passe d'extraordinaire. Et c'est la patience. Autre vertu des fruits de l'esprit, l'amour de Dieu, la joie, les chants, la joie, la paix, rester dans le calme, la sérénité, et puis après, finalement, ça touche nos relations avec les uns et les autres. Il y en a 9 fruits de l'esprit. Mais en tous les cas, une chose qui est certaine, eh bien, c'est que ce sont des choses dont nous devons nous revêtir, et c'est les véritables armes pour faire écrouler les murailles de Jéricho. Oui, la patience. Les méthodes humaines sont renversées et inversées. C'est ça avec Dieu. Combien de fois nous avons été un petit peu pris de court parce que on se dit, mais Seigneur, c'est pas comme ça qu'on fait dans la méthode. C'est pas comme ça qu'on fait d'ordinaire. Moi, j'ai appris à l'école qu'il y avait des principes qu'il fallait respecter. Puis Dieu dit, écoute, hein, la véritable école, elle n'est pas là, elle est là-haut. Et elle est avec moi, je suis ton professeur, je suis ton pédagogue. C'est moi qui vais t'apprendre des choses. Et tu vas voir qu'au lieu d'avoir des petites choses sur la terre, tu vas en avoir des petites choses et des bonnes choses. Mais moi, je veux te donner tous mes trésors du ciel. Ça sera autre chose. Alors, les méthodes humaines sont inversées. Elles ne sont pas, en effet, tactiques, comme on dit, et autres usuelles de tout simplement, en effet de façon militaire, oui, c'était pas du tout ça, hein. Constatées comme inopérantes, ça ne marche pas. Souvent trop de chrétiens, quelquefois, disent « Ah ben oui, j'ai demandé à Dieu, mais ça n'a pas marché. » Pourquoi ça ne marche pas? Le problème, il n'est pas chez Dieu, le problème, il est chez toi. Éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire. Et même si je dois avoir, et même si je n'ai pas, eh bien, moi, je te fais quand même confiance. C'est de la résilience. Ouais, c'est pas facile, hein. Moi, tu vois, Seigneur, j'aimerais bien avoir une Tesla. Quand je ne vais pas demander. Maintenant, si vous voulez m'en offrir une, je... Eh bien, moi, je veux lui dire au Seigneur, tu vois, une Tesla, c'est bien. Ah oui, c'est bien, hein. Je crois que c'est bien. Mais si je l'ai, je te bénis. Et si je ne l'ai pas, je te bénis aussi. Eh oui. Alors, allez, chez le concessionnaire, il est à Rennes. Bon. Alors, rien ne résiste devant le Dieu qui nous a créés. Nous sommes ses créatures. Et ce n'est pas nous qui avons créé Dieu. Ah, c'est sûr. Il est tout puissant. Et même les murs, eh bien, s'effondrent comme les montagnes les plus hautes. Et vous savez de quoi je parle quand il est question de montagne. Je termine. Le verset 10. Dieu va donner ce conseil à Josué pour qu'il le dise au peuple des Hébreux qui tourne autour là, de la muraille. Ne criez pas. Alors il y a un temps pour parler, un temps pour crier et un temps pour se taire. Vous savez le livre de... Je ne sais plus, c'est l'histoire du temps là. C'est un livre de la Bible, l'histoire. Oui, oui. Alors, ne criez pas, car le miracle divin ne s'accomplit que dans l'ordre de l'obéissance et de la foi. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire pendant tout le message. Je ne recommencerai pas tout à l'heure parce qu'il faut que je sois à l'heure. Désordre dans l'obéissance d'une discipline de recueillement et d'attente. Et qu'est-ce que ça veut dire recueillement? Eh bien, c'est la prière. Je continue à prier, je ne vois rien, je ne comprends plus, je ne comprends rien, mais Seigneur, eh bien, permets-moi que je passe mon temps, et surtout que nous avons un atout formidable chez nous, hein, avec la prière charismatique, le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que nous parlons à Dieu d'une manière tout à fait particulière. Moi, à chaque fois que je prêche, ça m'arrive de temps en temps, Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Ah ben ça, tous les prédicateurs, ils y pensent. Il y en a que ça rend malade. Bon, avec le temps, ça, on a passé la maladie. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand je suis... Quelquefois, je ne me sens pas bien. Je suis venu ce matin, je n'étais pas bien. Pas en forme du tout. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans la voiture, eh ben, je prie en langue. Ouais, ma voiture, c'est ma chapelle. Je vais être obligé de lui mettre un petit clocheton dessus. Les gens ils vont dire, il n'est pas bien. Mais... chapelle. Non, non. Alors, on va finir. Dans le désordre et l'obéissance d'une discipline, recueillement, attente, patience, sans faiblir du résultat espéré venant du ciel, parce que ça vient d'en haut, ça viendra toujours d'en haut. Alors, il y a des gens qui sont peut-être sceptiques, qui viendraient, qui rentreraient, des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils diraient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade, ce gars. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que qu'on le pense. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors enfin, le septième jour, la muraille s'effondre toute seule, sans combat, ni effort, ni feu, ni sang. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. On l'a vu pour Rahab. On le voit quand même dans d'autres situations. Même des pécheurs avérés, Dieu leur fait grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour nous quand nous sommes rentrés dans la dimension de l'Évangile en Jésus-Christ? Mais ce n'est pas parce qu'on était des saints, ce n'est pas parce que nous avions des auréoles sur la terre, on ne l'a toujours pas, hein, l'auréole. Moi j'ai un beau chapeau, par contre, je ne suis pas bien avec, mais hein, voilà. Mais toujours est-il qu'on n'a rien, et Dieu nous a donné finalement eh bien, le statut d'un prince, ou d'un presque, ben oui, d'un enfant de Dieu, tout simplement. Hein. Alors, l'histoire de l'auréole, c'est encore des histoires, tout ça. Alors, septième jour, la muraille va s'effondrer toute seule. Et nous voyons que la voie est ouverte comme un prémisse. Écoutez bien, c'est la conclusion. Comme le prémisse pour voir apparaître au lointain, c'est-à-dire des siècles et des siècles après Josué, à travers la venue de Jésus, l'Évangile, et bien là en Israël, le Nouveau Testament, si vous voulez, ceci prophétiquement que Josué fait figure de Christ Sauveur dans ce texte. Eh oui! C'est lui qui va ouvrir la porte. C'est lui qui va ouvrir, finalement. L'obstacle, qui va écrouler l'obstacle, qui va faire fondre la montagne, en quelque sorte. Hein. Parce que nous voyons que si Josué a vaincu le bastion du mal et du paganisme, entendez par là Jéricho et son monde, et qui a ouvert le pays de Canaan, nous espérons pas pour le pays de Canaan, nous espérons pour le royaume de Dieu dans le ciel, qui ne s'appellera plus. Lorsque nous aurons quitté la terre, ce ne sera plus le royaume de Dieu, mais ce sera le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Et ça sera mieux que Canaan. Ça sera mieux que là où coule le lait et le miel. Parce que la muraille va s'écrouler. Le peuple poussa un grand cri. Dernière fois, septième fois. Un cri de victoire. Parce qu'il était tellement préparé. Dans son fort intérieur, dans sa conscience, dans sa pensée. Il a tellement été préparé par la foi. Que là, il va exploser en quelque sorte. Et il nous est dit que la muraille s'écroula. Et oui, Jésus nous le rappelle quand il nous dit, eh bien, en effet, vous diriez à cette montagne, voilà, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous allez acheter un pot de moutarde demain, et vous allez compter tous les grains, et vous allez prendre une loupe pour les voir, ils sont petits, petits, petits. Mais si vous aviez, Seigneur, donne-moi une foi qui soit grosse comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé. Alors, vous diriez à cette montagne, vous le dites, pas à la matière, mais à Dieu, Seigneur. Moi, je suis devant des murailles, je suis devant des murs infranchissables, je suis devant eh bien, un bastion inexpugnable. Mais Seigneur, alors à ce moment-là, eh bien, tu m'ouvres la porte, et parce que ce qui est impossible pour toi est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, mes frères et sœurs. Que Dieu vous donne sa grâce et que vous puissiez avoir un souffle de foi. Ça, c'est important. Mettez l'accent sur la foi. Priez pour que vous ayez la foi. Priez pour que l'Église puisse avoir plus de foi, pour que nous soyons encore davantage unis. Parce qu'une Église qui prie et qui prie unanimement dans la foi, je peux vous dire qu'elle renverse des montagnes aussi. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité et ta parole. Oui, nous voulons, Seigneur, tu nous donnes une formidable explication à travers l'histoire de la parole du grain de sénévé, petit, insignifiant, et tu nous dis pourtant, vous verriez, vous allez voir l'impossible. Eh bien, Seigneur, merci pour Josué. Merci pour le courage qu'il a cru, qu'il a eu d'entendre Dieu lui parler. Alors, nous voulons, en effet, Seigneur, te remercier et te bénir. Et moi, je te prie particulièrement pour le frère, la sœur qui est là, la famille peut-être, qui est aux prises avec un problème, une montagne, un bastion, des murs qui véritablement traînent depuis si longtemps, des murs antiques, des murs qui, peut-être, les ont déjà perturbés avant qu'ils se convertissent, mais les murs sont toujours là. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, interviens et révèle-toi, parce que seule ma foi, Seigneur, seule leur foi peut véritablement, eh bien là, en effet, écrouler la montagne, nos montagnes à nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.